toujours voulu savoir ce que c'était exactement que le cinéma.
Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort.
Tous les cinémas du monde. Tous les cinémas du monde. Elisabeth Le Quéré, Sophie Torlotin.
Bonjour, bonjour et bonne année à toutes et tous. Pour cette première émission de 2022, Tous les cinémas du monde vous entraînent cette semaine à Bamako. Bonjour Sophie.
Bonjour Elisabeth, bonjour à toutes et tous.
Et bonjour Robert Guédiguian.
Bonjour.
Twist à Bamako, c'est le nom de votre nouveau film en 40 ans d'une carrière particulièrement riche. Vous qui avez exploré le Vieux-Port et les Calanques de Marseille, bien sûr, l'Arménie, chère à vos racines, et même arpenter le champ de Mars. Voilà que vous avez embarqué votre équipe pour un double salto temporel et géographique vers l'Afrique des indépendances. Merci d'être en plateau avec nous, vous qui êtes un peu le parrain de tous les cinémas du monde pour cette première émission de l'année. Bonjour.
Bonjour.
Et bonjour Alexis Mas.
Bonjour.
Vous êtes le fondateur de la société de distribution Condor. Vous avez distribué, entre autres, on ne va pas les citer tous, Gabriel et la Montagne, Wendy, Les Faussaires de Manhattan et tout dernièrement First Cow de Kelly Rickard. Donc l'histoire merveilleusement filmée de l'amitié entre deux hommes, deux cow-boys, au moment de la conquête de l'Ouest. First Cow qui a été l'une des rares bonnes nouvelles de 2021, de cette fin d'année morose, puisque vous avez à ce jour plus de 100 000 entrées. Est-ce que c'est exact ou ça a encore monté?
On va les atteindre d'ici 15 jours.
Ouais, donc bonne nouvelle, et c'est l'occasion de reparler de ces deux dernières années si particulières pour vous aussi, Robert Guédiguian, et de voir ce que nous réserve aussi 2022 en surprise, plutôt bonne pour l'instant, puisqu'on vient d'apprendre que le Festival de Berlin, menacé par l'épidémie, se tiendra quand même apparemment en février. Mais avant, cap sur le Mali des indépendances, 1962 à Bamako. Les indépendances ont déjà leur martyr, Patrice Lumumba, mais le rêve de la révolution est encore intact. Samba, votre héros, Robert Guédiguian, est le fils d'un riche commerçant. Il vit corps et âme l'idéal révolutionnaire, sillonnant le pays pour expliquer aux paysans, en français et en bambara, les vertus de Marx et Lénine. C'est donc là, dans un village bambara reculé, que surgit Lara, une jeune fille mariée de force par le chef du village, dont la beauté et la détermination vont bouleverser Samba. C'est donc l'histoire d'un amour interdit que raconte Twist à Bamako, votre nouveau film, Robert Guédiguian. Un amour interdit, vécu sous les auspices de la Révolution, mais aussi une musique venue de France et d'Amérique. Le Twist est-il soluble dans la Révolution? La question peut paraître futile, elle est pourtant au cœur de votre nouveau film et on aura l'occasion d'en discuter. Vous ne la prenez pas du tout à la légère, mais avant, vous avez accepté de commenter pour les auditeurs de RFI en avant-première mondiale les 10 premières minutes de Twist à Bamako. Donc je le disais, histoire d'amour impossible entre Samba, joué par Stéphane Bach, et Lara, joué par Alice Daluze pour son premier rôle au cinéma. Et avant de commencer la première bobine, je voudrais revenir sur les origines du film, parce que je crois que tout a commencé pour vous dans une exposition du Quai Branly.
Oui, tout à fait.
Sur le photographe
Malik Sidibé.
Malik Sidibé.
Oui, très célèbre photographe et qui a beaucoup, effectivement, qui a essentiellement fait des photos de jeunes gens et jeunes filles dans ces années-là, souvent au bord de la plage ou dans des clubs, puisqu'il y avait on estimait qu'il y avait 200 clubs de danse à Bamako dans ce moment de l'indépendance.
200,
oui, oui. C'est vraiment la fête révolutionnaire, en fait. Voilà. Et donc ces photos-là, que je trouvais très très belles, avec tous ces jeunes gens très beaux, qui se tortillaient dans tous les sens, tout à fait désarticulés, qui dansaient sur une jambe, pas toujours sur les deux, ou sur une main d'ailleurs. Enfin bon, dans des costumes tout à fait évidemment aussi extravagants, multicolores, etc., etc. Et il y avait un couple en particulier, un jeune homme avec un costume blanc, qui était tous deux avec une jeune fille seule sur une piste, comme ça, sur une piste interbattue, qui avait l'air d'être dans un mouvement de twist. Et je me suis dit, j'ai essayé d'imaginer qui sont ces deux jeunes personnes-là.
On pourrait raconter l'histoire de ces deux-là.
On pourrait raconter l'histoire de ces deux-là, de ces deux amoureux-là. Voilà, j'ai supposé qu'ils étaient amoureux. En réalité, d'ailleurs, j'ai su après que c'était en fait un frère et une sœur. Mais peu importe, ce n'est pas du tout leur biographie. On a imaginé donc leur biographie.
Alors, Twist à Bamako, voilà, retour vers le Mali des indépendances. Première bobine, c'est parti.
Voilà, ça c'est le bruit typique des batteurs de basin. Hein. C'est le basin, c'est ce tissu qui est blanc au départ, qu'on tape dans un art très, très particulier. Et qu'après, évidemment, on le teint de toutes les couleurs, de toutes les manières possibles. Et ça donne ce tissu très très riche. C'est le tissu le plus riche et le plus utilisé par la bourgeoisie africaine, on peut dire.
Alors, on est dans une cour. On voit ces batteurs, ces tisserands, oui. Hommes et femmes. Et l'image est en noir et blanc.
Oui.
Pendant quelques secondes.
Oui, c'est parce qu'il s'agissait quand même très très vite de raconter l'époque, en fait, de contextualiser. Un peu après d'ailleurs, on est allé jusqu'à écrire sur l'image, donc Bamako 1962, pour bien préciser l'époque où ça se passait, et pour préciser ce rapport entre le noir et blanc et la couleur. On est à l'époque d'ailleurs du passage du noir et blanc à la couleur.
Et les personnes que vous filmez font des gestes qui ont été oubliés ou qui sont encore pratiqués de nos jours?
Non, c'est des gestes qui sont encore pratiqués. Donc toute la figuration et toute la mise en place étaient faites à partir de gens qui sont des travailleurs, qui savent faire cela, quoi. Qui le font toujours, qui savent le faire. Et en même temps, on essayait de raconter tout à fait le contexte. Donc il fallait raconter en même temps que cette industrie, que le passage du noir et blanc à la couleur, il fallait raconter aussi cette quête socialiste, mais la recherche de cette voie socialiste pour le Mali. Donc il arrive très très vite dans ces images comme ces industrieuses, il arrive très très vite des commissaires du travail, des inspectrices du travail.
Fatou, c'est quoi ce bordel là?
Voilà.
Vous êtes qui vous?
Moi je suis le patron, mais vous êtes qui?
Madame Fofana Konaté, contrôleuse de l'hygiène et des entreprises de Bamako. Et monsieur, vous devriez avoir honte.
Pourquoi je dois avoir honte?
Regardez ces mains, madame, montrez-moi vos mains.
Évidemment, il n'y a pas beaucoup d'hygiène et pas beaucoup de protection.
On se doute en fait presque dès cette première séquence que jusqu'à présent le commerçant n'avait jamais eu de problème, peut-être même arrosait-il un peu des officiels, et là maintenant il y a des nouvelles lois qui viennent de passer.
Ça ne rigole plus avec ça, je veux dire, donc il faut respecter ce code du travail, et effectivement dans la séance tout de suite après, ce commerçant va être en confrontation avec son fils qui lui dit j'en ai marre de ton socialisme en fait, parce que son fils est le personnage principal. Qu'il fallait présenter très vite aussi, je veux dire que je pense que dans une première séquence ou dans les 10 premières minutes d'un film, il faut avoir mis en place tout ce qui va faire le film après.
Allah aime ceux qui se repentent.
Et ceux qui mendient aussi. Il est là, Badian?
Il travaille, c'est un miracle.
Voilà.
Salut. On a posé le décor et là apparaît un jeune homme sur une moto, donc c'est votre... Robert Guédiguian, Samba.
Mais c'est mon héros, c'est moi d'ailleurs.
C'est et
moi.
C'est votre moto aussi?
C'est moi à cet âge-là et c'est ma moto. Oui, c'est ma moto parce que j'avais une moto à cette époque et je l'ai donc amenée là-bas. C'est une BMW R50/2. Très belle moto. Et que j'ai réussi à rapatrier d'ailleurs.
Donc elle roule toujours.
Elle est à nouveau à Paris, oui.
Tu sais quoi? Je n'en peux déjà plus de ta révolution socialiste.
Oh, c'est notre révolution à tous, papa. Tu veux pas te calmer?
Donc là, c'est le face-à-face, vous le disiez, Robert, entre un père patron et son fils révolutionnaire. Donc un face-à-face qui va assez rapidement devenir houleux, parce que Samba, il est un peu comme la révolution. Il est pétri de contradictions. Et là, c'est la première. Est-ce qu'on peut être marxiste et s'accommoder d'un père exploiteur?
Par-dessus tout, ça va permettre aux plus nécessiteux de s'y retrouver un peu mieux. C'est pas mal, non?
Ah ouais, c'est vrai.
c'est difficile, mais il essaie toujours, parce que Samba, il a la conviction chevillée au corps. Quoi. Enfin, il a la conviction qu'il faut convaincre. Donc même son père, il veut le convaincre, en fait. Donc il lui explique ce que c'est, les qualités du socialisme et les qualités du partage.
J'ai jamais compris ce que ça voulait dire.
Moi non plus. Et toi, petit chrétien, là, faut travailler.
Alors, dans ce rire, on entend bien que le père n'y croit pas du tout à la révolution.
Pas du tout, mais il a une bonhomie, en fait. C'est-à-dire que le père, j'ai tenu à ce qu'il soit aussi attachant. Il ne fait pas partie des commerçants fous furieux, contre-révolutionnaires, etc., qui veulent absolument assassiner la révolution. Il suit ça de très loin. On verra après dans le film, d'ailleurs, qu'il se laisse plutôt entraîner par ses amis commerçants. Il serait C'était un brave homme.
Et vous avez choisi un acteur qui est bien connu en Afrique.
Qui est très connu, oui. Très très connu en Afrique, qui est exceptionnel, qui est formidable. Issaka Sawadogo, qui est burkinabé. Et il joue dans énormément de films. C'est un très grand acteur.
Changement radical d'ambiance. Hein. Là, on est dans une boîte de nuit, c'est ça, Robert Bédiguian ?
Oui, c'est tout le...
Une des 200 boîtes de nuit de voilà, Bamako à l'époque.
Non, c'est tout le placement du film, en fait. C'est-à-dire que c'est vrai que Samba, qui vient de faire une leçon de socialisme à son père, qui est opposé au socialisme parce que c'est un riche commerçant, passe tout de suite de la leçon de socialisme au twist. C'est-à-dire à la boîte de nuit, où quand même, c'est un jeune homme, il va danser, il est plein de sensualité, il va s'amuser, et chercher à faire des rencontres amoureuses, etc., etc. Donc on est dans un club, là, le club principal du film, en fait, dans lequel on va être souvent.
On entend des flashs, Robert Guédiguian, et l'image qui se fige en noir et blanc. Donc là, ce sont c'est un tas de photographes qui capturent ces moments, ces corps jeunes et beaux. Est-ce que vous avez reproduit les clichés de Malick Sidibé ?
Pas toujours, mais il y a quelques séquences où on l'a fait. Pas, en l'occurrence, pas dans la boîte, pas dans le club. Mais par exemple, au bord de la plage, il y a, je crois, trois photos qui sont très précisément des photos de Malick Sidibé qu'on a reconstituées.
Et le club que vous filmez, c'est un club qui existait vraiment ou vous lui avez donné un autre nom
Non, non, on a tout... Oui, le nom existait. Happy Boys, il y avait le Triana, il y avait les Beatles, il y avait des tas de noms de clubs. Mais sinon, le club lui-même, évidemment, l'a reconstitué de HKZ. Oui.
C'est vrai que plus que dans vos précédents films, j'ai l'impression que vous passez beaucoup de temps à montrer, en fait, à installer l'univers dans lequel, et les univers dans lesquels vit Samba.
Oui, je crois qu'il le fallait, c'est-à-dire je voulais que le film soit quand même une totale exploration de cette époque-là. Il fallait quand même la montrer dans toutes ses couleurs, même si on parle du rapport justement noir et blanc couleur, mais dans toutes ses couleurs, au sens propre et figuré.
Voilà, changement d'ambiance et de musique, bien sûr, radical. On est en brousse, on suit un pick-up avec un drôle de logo. Donc, il faut le décrire, il est rond, il est rouge et à l'intérieur, on voit US-RDA.
Oui.
Qu'est-ce que ça veut dire ?
Ça veut dire Union Soudanaise du Rassemblement Démocratique Africain, ce qui était le parti, en fait. Vous savez que le Mali s'appelait le Soudan, en fait, était nommé par la France Soudan. Et l'Union soudanaise était un mouvement panafricain qui englobait aussi le Sénégal, qui englobait d'autres pays. Et donc c'est un véhicule de fonction fourni par le ministère de la Jeunesse. Ils partent justement après le twist, donc le matin tôt, ils se lèvent et partent dans les campagnes les plus reculées pour aller apporter la bonne parole, en fait, pourrait-on dire, mais ils vont prêcher effectivement au chef de village la nécessité du partage des terres, ce qui ne va pas de soi.
Une prêche, alors d'abord en français, on l'entend. Et vous, là, c'est Stéphane Bach,
oui.
Samba.
Vous devez vous affranchir de la tutelle des anciens.
Oui.
Et puis ça marche pas très bien.
Mais non.
Ce que tu dis, c'est bien, et c'est un bambara.
Il se pose même la question de savoir si dans des villages reculés, ils savent que l'indépendance est arrivée. Parce que c'est quand même un mouvement qui s'est passé évidemment beaucoup plus dans les villes et dans les milieux un peu plus formés, conscientisés. Et il vaut mieux leur parler en bambara. Donc il répète. Traduit le discours, en fait, de...
On entend Modibo Keïta, qui est le président.
Qui est le président.
Les femmes ont l'air assez sensibles, les femmes du village ont l'air sensibles au discours, en revanche, beaucoup moins les notables.
Oui, les femmes sont sensibles aussi au charme des jeunes militaires. Ils sont très beaux, tous, je veux dire, bon, et très...
Bazin, wax,
charismatique.
Charismatique.
Teinture, c'est un commerçant de Bamako.
Que Dieu le protège.
Amin.
Maintenant, je vais te raconter ce qui est arrivé aux paysans des Sao. Les gens de l'office du Niger sont venus à un mois, avec des gendarmes, accaparer les récoltes ancestrales. Comment tu appelles ça ? Moi, j'ai dit que c'est du vol.
Mais pas du tout. C'est leur récolte, Mais cela doit servir à nourrir tout le village. Et pas seulement les nobles qui se l'étaient approprié. Si vous voulez que ça marche, c'est très simple. L'avenir de la paysannerie réside dans les coopératives agricoles d'achat qui fixent un prix que les plus pauvres pourront payer.
Voilà, alors malgré ou peut-être à cause de la résistance justement du chef du village.
Voilà.
Samba et ses amis vont décider de passer la nuit, justement, passer la nuit au village. Donc on va voir un peu.
Oui, pour essayer de renverser la
tendance.
La tendance dans le village. Pour bien expliquer que c'est un partage, c'est pas un vol, c'est pour partager. Le voleur, en l'occurrence, c'est le chef du village qui s'approprie plus que ce qu'il devrait.
Et là, on a quelques plans magnifiques, justement, sur la vie dans ce village. Alors, on voit les révolutionnaires qui distribuent, j'ai eu l'impression que c'était des médicaments.
Alors, figurez-vous, c'était devenu très à la mode après, ils distribuent de la chloroquine.
Ah,
c'est des médicaments.
Contre le paludisme.
C'est des médicaments contre le paludisme. C'était un mot qu'on ne connaissait pas du tout, maintenant qu'on connaît tous. Mais c'était le médicament qui est toujours utilisé contre le palud.
On voit les enfants, on voit les chèvres, on tend les chèvres, on voit les enfants qui nagent dans le fleuve. Est-ce que c'est aussi votre façon de montrer l'écart terrible entre ce que prêchent les révolutionnaires et ce que vit 98% du pays ?
Ben oui, non, mais c'est que la vie est d'abord... il fallait montrer la vie dans toute sa simplicité. C'est-à-dire pour des enfants, effectivement, courir, nager, pour des parents, leur donner à manger. Il y a tout ça qui évidemment, est devant. Il y a toute la force de la vie qui est devant, effectivement, l'idée qu'on se fait de la vie et la manière dont on pourrait la transformer. C'est dans un second temps, c'est une espèce de prise de conscience, dans un second degré, qu'effectivement, on arrive à développer comme ça une participation à la vie politique et une action collective. Là, ils sont hors de ça, quoi. L'action collective, elle existe.
Et donc, ce plan, en lui-même, il contient un peu la mort de la révolution ?
Pas la mort, il contient ce qui peut lui résister. Il contient ce qui lui résiste. En fait, les forces contre-révolutionnaires sont déjà présentées dans ces 10 premières minutes. C'est-à-dire donc le père, le grand commerçant et le chef du village.
Extérieure nuit, un magnifique plan, hein, vraiment oui. Extraordinaire oui. Sur le village, en fête, éclairé, voilà ces paysans qui dansent, éclairés par le brasier. Et puis une jeune femme, très
qui
belle,
apparaît,
qui danse, c'est Lara.
Tu imagines un twist ? On peut essayer. Tu sais comment on dit twist en bambara ? Allez, on y va, on jette à l'eau.
Tu sais nager, toi ?
Eux ne savent pas danser ces danses-là, d'ailleurs.
Et les danses
ceux qui arrivent de la ville ne savent pas danser les danses traditionnelles.
Et les paysans, bien sûr, ne savent pas danser le twist.
Non.
Pas encore.
Et pas encore. Mais et Lara va arriver et va danser cette danse traditionnelle, mais elle va être très vite rattrapée par son mari.
Oui, on voit un homme qui, d'une façon très brutale, la prend par les cheveux,
oui.
Quoi. L'arrache à sa danse.
À sa danse et à cette fête-là, oui, au groupe.
Alors je vous propose, Robert Guédiguian, d'arrêter là la première bobine de Twist à Bamako.
L'histoire commence là.
On continue, voilà, l'histoire commence
l'histoire
là.
L'histoire d'amour commence là.
Et on parlera bien sûr de l'histoire après les Supremes, Where Did I Love Go? On reste bien sûr dans l'ambiance de votre film, hein, puisque je ne l'ai pas dit, mais c'est la bande musicale, enfin tout petit aperçu de la bande musicale très riche de Twist à Bamako. Oui. Tous les cinémas du monde sur RFI en twist avec nos deux invités, le distributeur Alex Imas et Robert Guédiguian, dont le nouveau film Twist à Bamako sort mercredi dans les salles françaises. Alors tout à l'heure, Robert, on s'est arrêté à un moment vraiment crucial, hein, c'est celui où Samba et ses compagnons, donc sur la piste, déjà bien loin du village, découvrent dans le coffre Lara, donc cette jeune femme qui a été mariée de force.
Oui.
D'ailleurs, à cause sous les injonctions du chef du village, Lara qui est bien décidée à échapper à l'avenir que lui ont tracé les anciens et donc partir à Bamako, où elle apprendra le twist, l'amour et la révolution. Vous, Robert, vous étiez tout petit au moment des indépendances africaines, vous aviez 7 ans.
Mais je regardais déjà la télévision.
Alors, vous avez quel souvenir visuel de ça?
Non,
c'était l'ORTF, bon.
Je regardais 5 colonnes à la une, parfois, et presque tous les vendredis soirs, d'ailleurs, parce que c'était le vendredi soir. Le souvenir que j'ai, mais vraiment, je ne sais pas pourquoi, mais marquant, c'est vrai, c'est le visage de Lumumba, en fait. Et on avait vu beaucoup d'images de je m'en sers d'ailleurs dans le film, je montre souvent des
images. Au moment de son assassinat?
Oui, de son assassinat. Et c'est vrai que son arrestation, tout ça, c'est des images qu'on a beaucoup vues à la télévision.
Son portrait, il apparaît dans, hein,
oui,
comme un inspirateur.
Oui, je me sers du portrait, comme un inspirateur.
Dans les bureaux.
Même c'est un portrait où il montre avec du doigt, il désigne quelque chose, on voit son doigt qui pointe. On ne sait pas ce qui pointe dans ce discours-là, mais... Il est très utilisé.
J'ai besoin de toi pour la révolution.
Oui,
on imagine, hein, que c'est un peu
peut-être.
Ça.
Ou peut-être il désigne l'ennemi aussi. Hein.
Possible.
Je sais pas. Les deux.
Twist à Bamako, on ne l'a pas dit, Robert Guédiguian, mais vous l'avez tourné au Sénégal.
Oui.
Bon, j'imagine que ça a été un crève-cœur quand vous avez compris, c'était très tôt, que vous ne pourriez pas tourner au Mali
pour
des raisons de sécurité.
Très vite, oui, très vite. La situation au Mali est trop difficile. C'est vrai que c'est pas... Et en plus, un tournage, ça reste longtemps sur place. Pendant la préparation, évidemment, puis pendant le tournage, mais bon. Donc c'est vrai que c'est une espèce de présence, une cible évidente, quoi, je veux dire. C'est une présence longue, permanente, pendant plusieurs mois, comme ça. Donc il ne fallait pas, évidemment, il n'était pas question de prendre ce risque-là. C'est pas... Mais du coup, on a sillonné tout le Sénégal très très souvent, grâce à nos amis là-bas, hein, qui connaissent évidemment ce pays-là par cœur. Je sais pas, notre productrice, une jeune productrice, qui s'appelle Angèle Diabang, qui est réalisatrice aussi, d'ailleurs, qui a fait de très beaux films. Et puis notre assistante Demba Diaye, qui est, comme je dis toujours, on ne peut pas faire un film là-bas sans lui, quoi. Il est trop bon, comme dit ma fille. Il est vraiment, extraordinaire, il connaît le cinéma par cœur, il a vraiment un grand sens du cinéma. Et on a sillonné tout le pays pour trouver, on a tourné dans trois villes et 5-6 villages, pour arriver donc par petits fragments, comme ça, reconstituer le Mali de cette époque-là.
Et c'est un gros travail de reconstitution.
Énorme.
Enfin, les décors.
Énorme. En plus, les décors, évidemment, sont reconstruits. La concession dont on parlait au début, là, dans les 10 premières minutes, la concession qui est liée à la fabrique, comme ça, de tissus, était une ruine, en fait. On l'a refait, on a fait de la maçonnerie, c'était même plus de la déco, c'était de la maçonnerie. On a refait des façades entières, voilà, avec des maçons du coin, tout ça. On était partis longtemps à l'avance. On avait aussi deux grands décorateurs d'Afrique de l'Ouest, un Burkinabé et un Sénégalais.
Décors, costumes, évidemment.
Décors, des costumes. C'est pareil, les costumes, par exemple, les costumes du défilé, les costumes bleus, justement, très beaux, là, qui brillent beaucoup, des militantes qui défilent, sont tous fabriqués. Donc on a fabriqué, je crois qu'on a fabriqué 1000 costumes, en fait.
Mais il fallait 1000
si... Oui.
Ah, c'est énorme.
Oui. Mais on s'y est pris, c'est vrai qu'on a
pour
commencé
pour les scènes,
tout de suite,
bois de nuit.
Voilà, à la sortie de Gloria Mundi, grosso modo. D'ailleurs, non, pas grosso modo. Gloria Mundi est sortie, je me souviens, en novembre 2019, donc le lendemain de la sortie, on partait, quoi. On partait pour préparer le tournage. Donc on a préparé très longtemps à l'avance avec des équipes sur place, puisque nous, on n'est pas resté tout ce temps-là. mais avec les équipes sur place qui préparaient pendant que nous on était à Paris, qui nous envoyaient régulièrement des photos, bien sûr, du casting, etc., etc. On a reconstitué comme ça le Mali. C'était pas trop difficile pour les bâtiments institutionnels, parce que ça, comme tout ça, c'est l'architecture coloniale française des années 50. Donc les bâtiments sont très semblables.
Les mêmes d'un pays.
Oui. Le lycée, la mairie, tout ça, c'est vraiment très très proche de... Enfin, c'est pas proche, c'est exactement pareil que dans tous les pays d'Afrique de l'Ouest.
Robert Guédiguian, dans vos films, vous parlez toujours de l'intime à travers des personnages qui sont souvent très éloignés, hommes ou femmes d'ailleurs, souvent très éloignés de vous-même. Là, vous allez vraiment au plus loin, c'est-à-dire que vous partez en Afrique, tournez une histoire africaine avec des acteurs soit africains, soit afro-descendants. Vous, français, né en France, blanc, comment vous avez tracé votre histoire, votre chemin dans cette histoire si éloignée de vous, c'est-à-dire... Ça pose quand même des questions, une responsabilité particulière, j'imagine.
Oui, mais justement, je voulais aussi me mêler de cette question-là. Parce que je dis que cette histoire, et alors je le dis très naturellement, en fait, comme on dit chez Pagnol, je dis que cette histoire est la mienne, en fait, voilà.
Donc, Samba, c'est moi.
Oui, je dis Samba, c'est moi. C'est-à-dire que cette histoire-là, cette histoire de lutte de classe, cette histoire... de lutte contre toute forme d'asservissement, cette lutte pour la condition féminine, cette lutte contre les féodalités, cette lutte contre le patriarcat, cette lutte pour plus de partage des richesses, tout ça...
C'est aussi un personnage qui contre son destin.
Me semble d'une évidence pour moi. Pour ça, je dis, j'ai vécu ça, cette histoire est la mienne. Et évidemment, j'ai toujours prétendu, et je continue à le prétendre, que l'histoire du monde est m'appartient. C'est-à-dire, on sait d'ailleurs aujourd'hui, à quelque chose de malheur et bon, on sait par la mondialisation que l'histoire, effectivement, des Ouïghours aujourd'hui me concerne, bien entendu. C'est mon histoire aussi. Donc l'histoire de l'Afrique à ce moment-là, c'est mon histoire. L'histoire en Amérique du Sud, de Cuba, par exemple, c'est mon histoire. Donc
Vous êtes universaliste, Robert Guédiguian.
Mais absolument. Je pense à l'universalité de la lutte des classes, du combat entre les riches et les pauvres. Et je me défendrai toujours de ça. Et je défendrai toujours cette idée-là.
Et qu'est-ce qu'il a de vous, précisément, ce jeune révolutionnaire qui dit « je marche en rêvant »
Ben oui, voilà, déjà il marche en rêvant. Je rêve un petit peu, je rêve toujours d'ailleurs, je continue. Et non, il a cet idéalisme très très fort. Il a le sentiment qu'il peut convaincre en fait. C'est-à-dire qu'il est tellement convaincu que ce qu'il dit est juste. C'est-à-dire qu'il faut... Il faut créer du commun, il faut créer du collectif, il faut créer du partage. Voilà, il pense ça, il pense que l'humanité ne s'en sortira pas sans ça. Et là, il peut se heurter à des tas de réalités, mais enfin, il prêche cette idée-là du bon. Voilà. Donc, de toute façon, là, c'est très très clair qu'il est obsessionnel quoi, avec cette idée-là. Évidemment, il a travaillé sur ses prédécesseurs, c'est-à-dire sur, comme par hasard, je veux dire, il y a sans arrêt des portraits de Césaire aussi, etc. Donc, il est très...
Il est bien entouré, Franz Fanon aussi, non?
Franz Fanon, oui. C'est très court, mais ça, après, je l'ai mis dans beaucoup d'endroits, Fanon, parce que pour moi, c'est une grande référence. Mais après, les moments de filmage, on ne pouvait pas le déplacer dans les plages chaque fois. Donc, on voit un peu moins Fanon, je le regrette. Mais donc, une citation, évidemment, de Césaire. Et puis, il a cette dimension aussi, bon, un peu plus drôle, excusez-moi, mais il a, comme moi aussi, il danse le twist et le rock. Voilà.
Il pense que le twist est soluble dans la révolution, voilà. Ce qui va lui
ça,
poser pas mal de
ça,
problèmes.
Ça, je dois dire, il m'en voudra pas, je dois dire que Stéphane danse moins bien que moi.
Voilà. Je lui ai donné
des cours, mais pendant six mois. C'est parce que ça aussi, on a préparé six mois avant. Je veux dire, on avait des cours. Vous savez, d'ailleurs, je peux te donner, on était dans le marais, là, où il y a ce
centre de danse.
Ce centre de danse, et où on danse toutes les danses du monde, etc. On est allé là-bas deux, trois fois par semaine pendant six mois. Ah oui, oui, oui.
Et c'est vous, oui, personnellement, qui lui avez appris...
Je suis allé souvent avec lui. Le premier cours, c'était avec moi, oui.
Mais plus sérieusement, l'idée du twist et de la révolution, elle était aussi au cœur du projet, non ?
Oui, elle est au cœur du projet parce que je crois que un des grands défauts de tout le mouvement ouvrier dans ces dernières années, je veux dire dans les 30 ou 40 dernières années, c'est d'avoir oublié la fête, en fait, justement. C'est d'avoir oublié la sensualité, c'est d'avoir oublié qu'il fallait révolutionner les mœurs aussi. La révolution, c'est pas qu'une affaire de... Le changement, d'ailleurs, pour ne pas dire le mot révolution à tout bout de champ, le changement ne doit pas s'opérer qu'au niveau des infrastructures, c'est au niveau des rapports de production, des forces productives. Il ne s'agit pas que d'augmenter les salaires. Il s'agit aussi, effectivement, de changer la vie, comme disait Rimbaud, hein, qui était un mot d'ordre que moi, je hurlais toutes les 5 minutes quand j'avais 17 ans. C'est vrai que donc là, de dire, comme dit le personnage, la révolution, c'est l'électrification, plus les soviets, plus le twist, pour se foutre de la gueule de ses camarades qui ne pensent pas ça.
Et mais c'est pas bien reçu du tout, cette
phrase. Une citation abusive comme ça de Lénine, qui évidemment ne connaissait pas le twist. Mais c'est exactement mon point de vue. Je crois qu'effectivement, le socialisme est apparu pendant longtemps comme étant quelque chose de laborieux, de sérieux, d'austère, de travailleur, on ne rigole pas. Voilà. On travaille à changer le monde. Et je pense que c'est une erreur grossière, parce que face à ça, on avait un capitalisme effectivement conquérant. Les dames blanches, la Marlboro, le cheval, les grands espaces et le twist. Voilà. Et les Américains ont gagné grâce au twist, je pense, plus que grâce à leur idéologie.
Et au Marlboro. Alors, on quitte un peu le twist, mais on reste dans l'ambiance de twist à Bamako avec les Beach Boys, I Get Around, et on vous retrouve tout de suite après, Robert Guédiguian et Alexis Mas. Down the same old strip. I gotta find a new place where the kids are hip. My buddies and me, you're getting real well known. Yeah, the bad guys know us and they leave us alone. I get around. Tous les cinémas du monde avec nos deux invités, Robert Guédiguian et Alexis Mas. Alors cette première émission de janvier, bien sûr, c'est le moment de regarder dans le rétroviseur de ces deux années folles. Hein, qu'on soit distributeur comme vous, Alexis Mas, ou cinéaste et producteur, Robert Guédiguian. Pour vous, Alexis et Condor, alors, il y a eu ce grand succès en salle dont on parlait en début d'émission, le First Cow de Kelly Rickard. Mais quand même, vous avez eu chaud. Surtout avec le premier confinement et la première fermeture des salles en mars 2020.
Absolument. Bah oui, parce que si on rembobine en 2020, le confinement est tombé à la mi-mars. En gros, personne s'y attendait. C'est quand même venu de manière très soudaine. Et nous, on avait un film qui devait sortir 4 jours après l'annonce du confinement, qui s'appelle L'ombre de Staline. Et c'est un film qu'on avait préparé depuis longtemps, qui est notre plus grosse sortie de l'année. Et là, quand en tant que distributeur, si vous vous faites shooter en vol à 4 jours de la sortie, ça veut dire qu'en fait, vous avez dépensé tout ce qu'on appelle les frais de sortie.
Qui étaient énormes pour ce film, je crois.
Qui sont énormes, sont de l'ordre de 400 000 euros sur un film comme ça. Pour une petite boîte comme nous, on joue la survie de la boîte. Et là, vous comprenez tout d'un coup que vous aurez zéro revenu, en fait, puisque les salles ferment, en fait. Donc moi, je me souviens que c'était ces 3 premiers mois, puisque le premier confinement a duré de mars à juin. C'était des mois très difficiles où la société était en mode survie. On ne savait pas si on allait passer le cap. Tout ce qui était aide aux entreprises, le chômage partiel n'était pas encore en place. Moi, j'ai 12 personnes et voilà, on était au pied du mur, quoi. Alors la belle histoire et la fin heureuse, c'est qu'en fait, je n'avais absolument pas le choix de faire autrement que de sortir ce film dès que les salles réouvriraient. Et pour l'anecdote, les salles ont réouvert un lundi au lieu d'un mercredi, qui n'est pas le jour traditionnel de sortie.
Qui était
le 22 juin. Et j'ai dit, on ne peut pas attendre. Là, on compte les jours en trésorerie, etc.
Et alors, à ce moment-là, il faut décrire la situation. C'est-à-dire qu'aucun film ne voulait se risquer à sortir en salle. Donc, il y avait un grand vide.
Il faut se remettre, parce que maintenant, on s'habitue à tout. Donc, on vit avec cette crise maintenant depuis quasiment 2 ans. Mais si on se remet dans le contexte, on avait juste 2 mois. On était restés enfermés chez nous. C'était des confinements stricts, souvenez-vous. Et on avait une espèce d'impression extraterrestre. On ne savait pas ce qui allait se passer quand les gens allaient pouvoir ressortir et réaller dans les cinémas. Et effectivement, il y avait une vraie question. C'est est-ce que les gens allaient vouloir retourner en salle? Il y avait une forme de psychose. Et donc, effectivement, moi, je me souviens très bien... de cette première séance de 9h à l'UGC Léal, non pas un mercredi mais un lundi, je monte les escalators, il y a des escalators pour arriver, Et pendant que je monte, ça prend un petit moment, je me dis, s'il n'y a pas la queue devant le cinéma, je sais que je suis foutu, parce que ce n'est pas une histoire de mon film versus celui des autres, c'est juste qu'il n'y aura pas des gens qui se seront déplacés pour se dire, tiens, je restaure mon habitude de cinéma. Et il se trouve qu'en haut de l'escalator, il y avait un monde fou, et cette première séance a été énorme pour tout le monde, hein, d'ailleurs. Et c'est là où on a de la chance d'être en France, je pense, parce que ça, c'est l'appétence du public français pour le cinéma.
Et c'était l'un des rares nouveau film, en fait, parce que ce 22 juin 2020, c'était les films qui avaient commencé à être exploités, qui ressortaient.
Il y avait la reprise, c'était très chaotique, il y avait la reprise de certains films qui avaient été interrompus au bout d'une semaine, deux semaines d'exploitation. Alors, c'était pas facile aussi pour mes confrères distributeurs qui avaient ça à gérer, parce qu'il y avait La Bonne Épouse, ou des films comme ça, ou De Gaulle. Il fallait remettre en route ça, donc c'était un autre exercice. Nous, c'était une vraie sortie fraîche. Et effectivement, on était un des rares films, en tout cas internationaux. Les quelques films qui s'étaient risqués étaient des films français. On était un des rares films internationaux à sortir. Aussi parce que, pour le coup, les studios américains, et ça sera vrai pendant toute l'année 2020, ont été très échaudés et étaient très frileux par rapport à cette crise et à cette non-visibilité, et avaient donc retiré tous leurs films. Donc, il manquait, par rapport au paysage de l'offre habituelle, on va dire, des grands films, des grosses productions internationales. Et donc, on a fait un peu office de ça.
Et donc, un an et demi plus tard, rebelote. Divine surprise avec la sortie de First Cow. Alors, je reviens rapidement sur l'histoire, qui n'était pas simple, parce que, pour le dire très vite, First Cow était sorti sur une plateforme quelques mois avant sa sortie en salle. Mais malgré ça, ça a été un grand succès, un immense succès. Je crois le plus grand à ce jour de la réalisatrice Kelly Reichardt.
Tout à fait, oui.
Presque 100 000 entrées en salle.
Oui. Bah, c'est une super histoire. Alors, c'est vrai que...
Alors, on va pas vous demander si vous vous y attendiez.
Non, on s'y attendait pas.
On s'attend plus à rien.
On a pris un risque. On a cumulé des je pense que si les gens connaissent, ceux qui connaissent un peu le secteur du cinéma jugeront les énormes risques qu'on a pris. En fait, la raison pour laquelle il y avait une plateforme qui était sortie avant nous, c'était pas du tout de notre fait. C'est pas nous qui avons vendu ce film avant l'heure à d'autres gens. Donc, moi, je me suis raccroché à une conviction, c'est que je me disais, ce film, de par sa nature, les gens vont vouloir le voir sur grand écran. Quand bien même, il y aura eu effectivement 3 mois avant nous, une sortie en plateforme. Et là-dessus, on a eu raison.
Il faut peut-être préciser que le film First Cow se passe dans ces magnifiques paysages. Je ne sais pas si c'est l'Oregon.
C'est l'Oregon de 1820, oui, absolument.
Voilà, on est dans l'époque de la ruée vers l'or. Et donc, il y a vraiment des plans de nature, effectivement. Et pour ceux qui connaissent le travail de Kelly Reichardt...
Tout à fait. C'est un très beau cinéma de la nature. On était très amoureux de ce cinéma, mais effectivement, c'est parce qu'on a ressenti cette émotion-là qu'on s'est dit qu'il faut la transmettre dans une salle au public.
Et vous, dans vos prévisions, c'était quoi, 50 000 déjà, c'était énorme.
Non, mais en fait, on ne savait pas, parce qu'on a eu, en fait, pour tout vous dire, cette histoire de plateforme nous a vraiment énormément compliqué la vie. On a été boycotté par 70% du parc de salles français. Moi, quand j'ai annoncé que j'avais fait cette acquisition dans ces conditions, j'ai perdu immédiatement dans la semaine tous les grands circuits, beaucoup d'indépendants, parfois par des lettres commandées, qui m'ont dit voilà, par principe, il y a eu une diffusion avant nous, on ne peut pas la situation française, on protège notre écosystème cinéma. Et franchement, ça se respecte. C'est-à-dire qu'à un moment, moi, j'ai discuté avec ça, parce que, par ailleurs, ce sont des lois qui font que le cinéma français et la création en France sont dynamiques. Donc voilà, je pensais néanmoins, pour être tout à fait honnête, convaincre ces gens en leur disant, voilà, moi je suis de bonne foi, ce film, je prends tous les risques pour l'amener en France, je fais pas ça en service commandé d'une plateforme ou autre, aidez-moi. Mais ça a été quand même très dur. Et donc, nos espérances, on savait pas trop. Franchement, c'était un peu un saut dans le vide, en réalité. Le geste fort qu'on a fait, c'est de se dire, quitte à passer derrière cette plateforme, on va essayer de réunir toutes les chances. Et on a programmé le film en le datant à la même date que la rétrospective qui était consacrée à Kelly Reichardt par le Centre Pompidou. Et je pense que dans cette période très difficile pour tous les films d'auteur, parce que c'est compliqué depuis la réouverture, on a bénéficié du fait que, tout d'un coup, la lumière, en tout cas de la communauté cinéphile, était entièrement braquée sur une auteure pendant 10 jours, parce que c'était son actualité, que tous ses films étaient mis en avant. Et je pense que ça nous a aidés.
Aujourd'hui, c'est vrai que trouver la bonne date de sortie, c'est un peu le nerf de la guerre. Comment vous avez fait, Robert Guédiguian ?
Ça a toujours été. Mais c'est vrai que là, c'est même plus le nerf de la guerre. C'est la foire à l'empoigne, comme on dit. Il y a tellement de films en retard. Mercredi dernier, il est sorti 25 films. Je crois. Avant, on se plaignait quand il en sortait 15 ou 17. 17, c'était des records les gens devenaient fous. Et là, on passe à 25, 26, 27. Enfin, bon, donc,
sans voilà, même parler des reprises.
C'est la guerre, quoi. C'est une espèce de... Bon, c'est horrible. Il faut absolument que ça se refluidifie. Et en fait, puis que les gens retournent en salle de cinéma, quoi. Exactement. Aller au cinéma.
Mais je pense qu'en fait, je pense qu'il faut quand même souligner que la France est quand même chanceuse parce que, en réalité, aujourd'hui, on a quand même restauré beaucoup de la fréquentation du monde d'avant. On est 20 à 25% en dessous. Alors, c'est pas rien, c'est un écart important, c'est un écart suffisant qui explique que tout le monde soit un peu angoissé parmi les professionnels qui travaillent dans ce secteur. Surtout que ce retard se croise avec le fait qu'effectivement, comme dit Robert, il y a une suroffre de films, encore plus que d'habitude, parce qu'en fait, c'est la résultante de cette espèce de surstock qui s'est créé sur les étagères des distributeurs pendant la fermeture des salles. Et du coup, quand vous croisez ces deux effets, c'est vrai que ça fait qu'il y a beaucoup de films qui ont des taux d'échec un peu anormaux en ce moment, et c'est ça qui inquiète tout le monde.
Vous pensez à quoi, par exemple ?
Je ne veux pas citer, mais il y en a beaucoup. L'échec est devenu un peu la règle.
Des très beaux films.
Des très beaux films, ça n'a aucun rapport. En fait, ce qui se passe, c'est que en fait, on a l'impression que le choix, il y a tellement de films que le choix du public se polarise sur un choix ou deux choix en cinéma commercial comme en cinéma art essai qui vont tenir les écrans assez longtemps et par contre tout le reste va être balayé. Par
exemple, que ce soit Encanto de Disney ou Aline de Valérie Lemercier, tout se focalise sur
voilà,
très
sur
peu de titres.
Voilà, sur quelques titres. Vous voyez par exemple sur le secteur art essai qui est mon secteur, les sorties de début décembre, bon ben en fait le choix du public s'est porté de manière unilatérale sur Almodovar. C'était ça que les gens voulaient voir. Ils ont fait un choix, c'est celui-là. Almodovar a un peu moins fait de box-office que son niveau habituel, mais c'était pas très loin. Et par contre, il y avait des films magnifiques qui sortaient dans l'univers du film d'auteur. Il y avait Rasoulov sur Le Diable n'existe pas, il y avait Serebrennikov qui était à Cannes. Moi, je suis éditeur vidéo aussi, je suis éditeur vidéo de Kirill Serebrennikov, et donc j'étais très peiné pour le distributeur salle du film qui s'appelle Bach. C'était affreux, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y avait personne dans les salles. Alors que normalement, en tout cas sur l'univers du film d'auteur, comme les gens sont curieux, ils se répartissent. Donc le changement qu'on vit là...
Et que le film était à Cannes, et que
il
la critique était,
Cannes, était
très positive.
Rasoulov, il était Ours d'Or. Voilà, c'est des très belles propositions. Et avant, dans le monde d'avant, il y avait plus de répartition. Là, on dirait qu'il y a un peu moins de spectateurs en volume, mais surtout, il y a une forme différente d'appréhender la sortie et de se dire, tiens, je vais choisir le film que je veux voir.
Vous avez l'impression aussi, Robert Guédiguian, que l'épidémie a accéléré un mouvement plus général ?
Qui existait auparavant, oui. Je suis absolument d'accord, évidemment, avec tout ce qu'on dit là. Mais de toute façon, l'analyse est partagée par tout le monde hein, aujourd'hui. Et c'est vrai que je crois que le phénomène était... C'est vrai qu'en France, parce qu'on s'est toujours battu, effectivement, il y avait une tissu plus favorable, hein, et plus... fait le cinéma français, la chronologie des médias, etc. Tout ça, le fond du soutien, fait tous les mécanismes. Le rapport aux télévisions, d'ailleurs, même, était quelque chose de très, très fort et puissant, qui nous a préservés pendant très longtemps de ce qui se passait d'ailleurs en Allemagne, en Angleterre, c'est une catastrophe, bon, ou en Italie, en Espagne, enfin, d'autres pays européens. Et là, j'ai l'impression qu'on commence à... On perd quand même un peu pied. Donc j'espère que ça va se redresser, que ça va se redresser dans l'année qui vient, et qu'on va revenir à nos habitudes de public le plus cinéphile du monde, en fait, voilà. Et le plus cinéphile diversifié.
Exactement.
C'est vrai.
Et je pense que vous avez prononcé le mot juste, le mot habitude. Parce que le cinéma, ça a beaucoup rapport avec l'habitude. Et là, on voit qu'il y a une habitude, en tout cas, dans certaines franges de public, une habitude qui s'est perdue. Et donc, on cherche à comprendre les fondements pour essayer de la ranimer, en fait, cette habitude.
Moi, ce qui me frappe, c'est que, effectivement, on est très content de ces 100 000 euros. De ces 100 000 entrées du film de Kelly Rickard. Mais quand on pense, par exemple, au succès de Marius et Jeannette il y a 25 ans, je ne sais plus...
2,7 millions.
Voilà, dites le chiffre, Robert Guédiguian. Et on s'aperçoit qu'effectivement, sans du tout vouloir diminuer la joie à voir un magnifique film qui est bien reçu par le public, mais on se dit qu'on a carrément changé d'échelle.
Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, si on veut remettre en perspective sur un temps un peu plus long, notre succès sur First Co, c'est vrai qu'il correspond juste à un ancien modèle qui est le modèle du petit film d'auteur un peu pointu, mais qui plaît beaucoup à la presse, qui plaît à la communauté cinéphile, et où on va réussir à ce qu'on appelle localiser le public sur les copies, c'est-à-dire qu'on est sorti nous sur peu de salles, mais les gens ont cherché à savoir où ça se jouait, et ils sont allés. Et à partir de ce moment-là, on a créé un bouche-à-oreille et le film a tenu. Ce truc-là, c'est un modèle vieux vieux comme le monde. Et je veux dire, tous mes confrères plus anciens que moi et beaucoup plus expérimentés pratiquent cela depuis très longtemps. Et c'est un truc assez habituel. La seule chose, c'est que ce modèle-là, il a disparu depuis la crise. C'est-à-dire qu'en fait, on est le premier film à réussir à recréer un public qui cherche à aller sur un petit film et qui fait des salles complètes. Et c'est aussi un motif d'espoir, c'est-à-dire que moi j'ai tendance à dire et de parler de ce petit succès qui reste petit, mais en disant aussi que c'est un motif d'espoir pour se dire il faut continuer à croire sortir des films, parce que ce qu'il y a de terrible, enfin ce qu'il y a de terrible, c'est ce qu'il y a de beau aussi dans notre métier, c'est qu'en fait il faut jamais baisser les bras parce que c'est que de l'offre. Il faut continuer à amener des films au public, à leur proposer des choses. Il y a un moment ça va reprendre et il y a que comme ça qu'on peut réussir à stimuler l'envie en fait et le désir.
Robert Guédiguian, Twist à Bamako sort le 5 janvier prochain dans les salles françaises. J'imagine que vous allez aussi le montrer au Sénégal et au Mali.
Oui, quelques mois plus tard, en fait, parce que je pense que je serai dans la saison des pluies. On ira peut-être, je crois, en juillet. Et effectivement, on a, pour que le public là-bas puisse vraiment voir le film, le public un peu large, le plus large possible, on a doublé le film, en fait, en Bambara et en Wolof. Qui sont les deux langues, en tout cas la plus parlée au Mali, le Bambara, et la plus parlée au Sénégal, le Wolof, et même qui permettront au film de circuler en Côte d'Ivoire, etc., dans toute l'Afrique de l'Ouest.
Et on le dit aux auditeurs de RFI, allez le voir, c'est la meilleure façon possible de commencer l'année en twistant. Alex Imas, vous parliez tout à l'heure de créer le désir. Alors vous le faites en sortant le 2 février, c'est ça, je ne me trompe pas, les oui. deux films de Johanna Hogg.
Oui.
Johanna Hogg et Souvenir 2.
Absolument. Et on est le seul pays au monde qui va le faire comme ça. Johanna est donc une cinéaste britannique qu'on a envie de lancer en France. Alors c'est très étrange de l'y lancer parce qu'elle est très expérimentée. Mais son cinéma n'a jamais traversé la Manche jusqu'à présent. Elle tourne depuis le milieu des années 80. Et nous, on est tombé tellement amoureux de son cinéma qu'on a décidé de lancer l'auteur en tant que tel. On a racheté toute sa filmographie. Et on commence par son œuvre la plus récente, qui était à Cannes à la quinzaine cette année, et qui s'appelle donc le diptyque The Souvenir. Et c'est deux films, un qu'elle a tourné il y a 3 ans, et l'autre qui est sa suite directe et qui était à Cannes. Et nous, on a attendu pour sortir les deux de manière concomitante. Donc les gens pourront voir 2 fois 2 heures. Et c'est un geste de distributeur un peu risqué, mais ça le mérite.
Et c'est le 2 février. Et rappelez-nous aussi des dates de sortie du nouveau film de Paul Schrader.
Encore une histoire de sortir, rédemption. Il est sur les écrans depuis le 29 décembre.
Voilà, de Card Counter de Paul Schrader, considéré comme l'un des 10 meilleurs films de l'année par les Cahiers du cinéma. Je crois même que c'était leur couverture du mois dernier.
C'est ça, oui.
Merci à tous les deux, Alex Imas et Robert Guédiguian. Tous les cinémas du monde, c'est fini pour aujourd'hui. Au micro, Sophie Torlotin
et Elisabeth Le Quéré, à la réalisation Fanny Renard.
Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même cinéma.
C'est là que commence toutes les danses qu'on lance en France pour les vacances d'Ouest. À Saint-Tropez, on est toujours en avance à Saint-Tropez. Sacha nous quitte, un jour ils seront de retour. Yeah oh, oh, ah, ah. Oh. Ils ne pourront jamais s'en passer. Tous viennent ici pour s'amuser. Appris à danser, oui, à Saint-Tropez, oui, on vient partout dans le monde vers Saint-Tropez. On voit sur la plage mille visages, plus tard ils iront danser.
RFI.